103,5.
La cité agricole de Mampou constitue aujourd'hui une véritable réserve forestière artificielle issue de la savane du plateau de Bateke avec 8000 hectares d'acacias plantés. Projet initié depuis 2004 par la fondation Hans Seidel, sur financement de la Commission européenne. Plus de 300 fermiers profitent de ce programme à la fois. Producteurs agricoles, sédentaires et acteurs de développement de cette partie urbano-rurale de la province de Kinshasa. Nous nous posons la question de savoir quel a été l'impact de ces projets au sein de la population paysanne de Mampou. Nous aurons la réponse avec nos deux invités. À savoir Franck Bizio, chef de projet agroforestier à Mampou pour la fondation Hans Seidel, ainsi que Frédéric Djengo Bosulu, directeur chef des services chargés de la gestion forestière au ministère de l'Environnement. Franck Bizio, bonjour.
Bonjour.
J'ai pas massacré votre nom.
Non, c'est bien, ouais, bien
Bizio. C'est vraiment Bizio.
C'est Bizio.
Ok, alors Frédéric Djengo, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
D'abord, on fait le point avec notre confrère Tati Mapoukou qui a séjourné à Mampou. Voilà, donc vous avez visité Mampou.
C'était pendant 2 jours.
Pendant 2 jours à Mampou. Tati, bonjour.
Bonjour, Julien.
Alors, à quand remonte exactement ce projet plantation d'acacia à Mampou?
Selon nos sources, JR, le projet de Mampou remonte à l'année 1984. L'initiative relève du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de l'époque. Pour la petite histoire, c'est HVA, une société hollandaise qui était retenue pour implanter une forêt artificielle sur la savane du plateau Bateke, et plus de 8000 hectares d'acacia y ont été à ce titre plantés entre 1987 et 1992. L'instabilité politique des années 1990 fit telle que l'entreprise HVA se trouva dans la contrainte de quitter les Congos en y abandonnant 8000 plantes d'acacia exposées régulièrement au feu des brousses causées par la population locale. C'est ainsi que quelques années après, la fondation Hans Seidel, présente au plateau de Bateke, s'est proposée de relancer ses projets de plantation d'acacia, non seulement à Mampou, mais aussi sur l'ensemble du plateau de Bateke, mais cette fois-là de façon graduelle.
Mais alors, pour quel motif le ministère de l'Environnement avait mis en place ce projet?
Vous savez, hier, le plateau de Bateke figure parmi les greniers agricoles importants qui approvisionnent les milieux urbains de la ville de Kinshasa. Cependant, les sols de cette partie de la capitale n'est pas naturellement favorable à toute le culture parce que le plateau de Bateke est occupé essentiellement par la savane. C'était dans le but d'augmenter la production de charbon de bois, très consommé à Kinshasa. En outre, c'est pour des raisons écologiques et touristiques que les autorités, ensemble avec des partenaires, avaient jugé bon de créer une forêt artificielle au plateau de Bateke. Ces essences sont situées aujourd'hui, hier, une ressource importante pour la régénération de l'air que nous respirons. D'autres précisions sur ces projets avec Patrick Auvin, responsable des projets agriculture, sécurité alimentaire au sein de la délégation de la Commission européenne à Kinshasa. Écoutons-les.
Ce sont des très anciens projets et très anciens investissements de la Commission européenne. En effet, les premiers projets datent de 1983-84. Ils ont été interrompus à la suite des événements de 90. Et on a repris la coopération en 2004 avec un premier projet ici de relance de l'agroforesterie sur le site de Mampou. Et à l'époque, il y avait 6500 hectares déjà plantés. Nous avons complété pour arriver à l'objectif initial qui était de 8000 hectares, et donc on a replanté 1500 hectares complémentaires. Le projet a aussi fait l'installation de 300 fermiers, et donc avec construction de petites habitations, de citernes comme on peut les voir autour de nous, pour que justement les gens puissent être installés dans une exploitation de 25 hectares. Chaque exploitation fait 25 hectares, et avec le système agroforestier, en exploitant 1 à 2 hectares chaque année sur l'ensemble des 25 hectares, on parvient à faire une rotation qui est efficace et performante. Et pour nous, ça nous paraît intéressant d'avoir justement contribué à la mise en place d'exploitations durables, pérennes. Le contexte des plateaux Bateke n'est pas très favorable pour une agriculture sédentaire où les gens restent tout le temps en place sur une même surface.
Voilà, alors Tati, quels sont les avantages directement liés à l'implantation de la culture d'acacia dans ces milieux périurbains de Kinshasa?
En fait, il faut souligner hier que les avantages sont de plusieurs natures parce que Mampou constitue à ces jours un site important d'exploitation durable et pérenne des ressources de l'environnement grâce au système de reproduction des nouvelles essences après abattage des arbres. Donc, l'intégration de l'acacia dans cette partie de la ville a rendu possible l'augmentation des recrutements des ouvriers ruraux. À ces jours, il y a des jeunes qui quittent, par exemple, les centres-villes de Kinshasa et de la province du Bandundu à la recherche de l'emploi à Mampou et ses environs parce que les projets aujourd'hui s'étend à d'autres villages grâce à cette participation paysanne. Suivant encore une fois de plus les explications de M. Patrick Aubin, responsable des projets agriculture, sécurité alimentaire au sein de la délégation de la Commission européenne à Kinshasa.
L'intégration de l'acacia dans la rotation culturelle fait en sorte que justement nous avons maintenant ici un site d'exploitation durable préservant l'environnement puisque avec la production de charbon de bois on préserve également les forêts naturelles du fait que la carbonisation des bois ici permet de préserver à peu près 500 hectares par an et en plus l'acacia est ainsi fait que il enrichit le sol de par la matière organique qu'il dépose sur le sol et de par la fixation d'azote qu'il fait au niveau de ses racines. Les rendements des cultures vivrières comme le maïs et le manioc sont nettement améliorés grâce à cette association avec l'acacia. Bon, il a été démontré, on a fait une évaluation il y a quelques semaines, et il est démontré que le genre d'investissement que l'Union européenne a fait ici est économiquement rentable. En effet, nous avons sur un périmètre de 8000 hectares investi plusieurs millions d'euros, mais il est démontré que par la production de charbon de bois et par les productions vivrières, les recettes générées permettent de dire qu'on est économiquement rentable avec un chiffre d'exploitation sur 3 ou 4 ans.
Alors Tati, quelles sont les impressions que vous avez pu recueillir auprès de la population?
Il faut dire que les habitants des Mampou et ses environs se disent très satisfaits de ces projets parce que actuellement plus de 300 familles bénéficient directement des activités qu'ont généré l'insertion de plantation d'acacia. Projet initié par la Fondation Anseidel sur financement de la Commission européenne. Pour votre information, JR, outre la fabrication continue de la braise, les Mampou et ses environs produisent 1000 tonnes de miel par an et également l'amélioration de la quantité et de la qualité de tous les produits vivriers et non vivriers qui sont cultivés dans cette zone agricole. C'est ainsi que le chef coutumier de Kingawa, un des villages voisins à Mampou, appelle sa population à s'adonner à cette culture qui a développé Mampou. Écoutons-les.
Il faut tout parce que Kaza a un bandit au développement, il y a des bossons à Mampou. Il faut tout le monde. Mampou est comme un développement pour la Kaza. Il y a des colonnes, puis ils ont besoin de carte à Makala, besoin de teka, besoin de bénéficier, puis besoin de jouer à manioc. Donc ils ont besoin de Zambambou, la personne qui a besoin de la Kaza. C'est pour cela que nous avons mis les autres salles à la Kaza. Il faut tout le monde à jouer. Puis nous avons mis Mampou à profiter, puis nous avons profité. En tout cas, nous avons félicité, cousineuse, tout, nous avons mis Franck, nous avons mis Singoma tchaiba programme pour nous sala misala na Kingawa makamitali manyuk wezaima kama mampu Kingawa basi wa force ya ko sala misala to sala contact na bino na biso to sala musala malamu na kate na Kingawa population za bénéfice pour na Kingawa pour te bénéficier parce que to saka na babilo ya ko sala ba mafufute ne to jiba machine to bali ko teka ba manyuk na biso na ndenge e ko ki poto jo ba moyen na population pour ko sepsa mboka ko sala parce que mon na mboka wa ko na biso mo ba to jo fulika ko sala na mabe to sala antenne ya il y a
Voilà, alors, entre nous soit dit, Tati, ces derniers temps, le charbon est un des produits très consommés
à Kinshasa,
en tout cas, Kinshasa et surtout avec
courant,
les problèmes de courant.
Qui est vraiment irrégulier.
J'imagine que l'impact de ce projet sera vraiment visible et surtout auprès de la population. C'est ce que nous souhaitons, que c'est le charbon ou le sac de charbon soit en grande quantité et que le prix, plus il y aura l'offre,
le prix
va baisser. Nous allons terminer avec vous. D'abord, une question de curiosité, Tati. Comment est-ce que le système de régénération des nouvelles essences d'acacia se fait sur place pour éviter la déforestation de cette forêt artificielle?
À Mampou et ses environs, la coupe de bois pour procéder à la fabrication de la braise s'est faite de façon cyclique afin d'éviter la déforestation. Elle se fait généralement JR à l'espace de 5 ans, ceci afin de faciliter la reproduction de nouvelles essences. Suivez l'explication d'une des fermiers que nous avons interviewé sur place à ce sujet.
Le principe de la régénération des essences acacia, c'est comment? C'est-à-dire, il faut d'abord savoir quand il faut couper. Il faut couper lorsque les graines sont déjà tombées, sont matures. Matures quand? C'est au mois de, le plus souvent, c'est au mois de mai, juin, pour la campagne A. Et pour la campagne B, c'est au niveau, au mois de février, mars, qu'il faut couper. À ce temps, les graines sont matures. Et lorsque vous faites l'abattage, vous faites un léger, vous faites l'incinération. Cette incinération enlève la dormance des graines qui permet maintenant la régénérescence des graines qui étaient latentes.
Donc vous affirmez à nos auditeurs que la culture de l'acacia est une culture rentable pour les agriculteurs et paysans.
Oui, rentable dans ce sens que elle améliore la productivité du sol, parce que nous atteignons au-delà de 20 tonnes à l'hectare pour les variétés améliorées. Par contre, dans les savanes, nous avons 15 tonnes, la même variété. Et outre ça, nous avons la production de charbon de bois. C'est une jachère qui n'est pas abandonnée, une jachère améliorée, qui a des bois que vous pouvez la braise que vous pouvez vendre, les rendements de nectars pour la braise des bois, vous pouvez avoir 350 sacs. Alors si vous vendez aujourd'hui 15 à 20 dollars par sac, voici les chiffres que vous pouvez réaliser.
Voilà Tati, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on s'arrête là.
Merci, j'ai pas d'autre chose à ajouter.
Alors bonne semaine.
Merci.
Okapi, fréquence de la paix.
Je l'ai dit tantôt, nous avons déjà dans ce studio Franck Bizio, chef de projet agroforestier à Mampou pour la fondation Ansaïdel, ainsi que Frédéric Diengo Bosoulou, directeur chef de service chargé de la gestion forestière au ministère de l'Environnement. Franck Bizio, en tant que chef de projet, pourquoi avoir choisi Mampou?
Mampou, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était l'initiative du ministère de l'Environnement dans les années 80. Et ça nous a permis, nous, d'avoir un laboratoire d'expérimentation, qu'est-ce qu'il est possible de faire en agroforesterie, et notamment avec le choix de l'espèce Acacia oriculformis, qui a donné de très bons résultats à Mampou et qui nous encourage aujourd'hui à proposer d'autres projets dans différentes zones du pays de savane pour profiter à la population d'un certain développement durable.
C'est un projet de quelle échéance?
Bon, nous avons débuté il y a peu avec le financement de la Commission européenne, toujours un projet dans le territoire de Gungu, dans le Bandundu, qui demande aux paysans justement de mettre en valeur les zones de savane avec l'appui de l'attraction animale, par exemple, pour introduire l'acacia dans la rotation agricole. Il s'agit donc des programmes de sécurité alimentaire, mais pour avoir une durabilité sur du long terme, sur plusieurs générations, pouvons-nous dire. Nous intégrons l'acacia, nous apprenons aux paysans à intégrer systématiquement l'acacia aux cultures de manioc et de mil, et les acacias occupent les jachères, et au bout de 10 ans, le fermier peut revenir exploiter sa ferme. C'est également une appropriation foncière du paysan des zones exploitées.
Oui, Monsieur Franck, quels sont les résultats directs et indirects que vous attendez de ce projet?
Bon, nous attendons surtout... Le premier atout, il est quand même social, c'est-à-dire une sédentarisation des populations, une sécurité alimentaire pour les zones urbaines, et aussi un impact au niveau national et même international sur l'environnement. Nous sommes ici en RDC, regardez avec les forêts qui jalonnent tout le bassin du Congo, mais nous proposons, nous, de mettre en valeur avec des arbres les zones de savane, pour justement limiter l'exploitation de ce patrimoine naturel qu'est le bassin du Congo.
Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai, Mampou en bénéficie de ce projet après Gungu, vous l'avez dit, mais les projets de Gungu aussi se poursuivent, donc c'est pratiquement le même projet, et Mampou, c'est la deuxième étape, en quelque sorte.
Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les bailleurs nous écoutent, sont appelés à être sensibilisés sur les actions que nous menons au profit des populations et au profit de l'environnement du pays, pour mettre en place dans toutes les zones de savane du sud de la RDC, pour faire de telles actions qui permettront de lutter également contre l'exode rural et en même temps améliorer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire d'un pays comme le Congo.
Oui, mais Gungu, c'était quand même, le lieu pilote. Vous avez peut-être commencé par Gungu ou il y a eu d'autres endroits?
Non, disons que nous avons commencé au plateau Bateke avec Mampou. Nous avons aussi, grâce à l'aide de la Commission européenne, pour commencer un programme d'agroforesterie villageoise dans les environs de Mampou. Nous avons écouté tout de suite un fermier qui témoigne de l'envie des populations d'aboutir à un développement durable avec l'acacia, puisque notre meilleur laboratoire et notre moyen de vulgarisation, c'est effectivement les fermiers de Mampou, qui peuvent témoigner eux-mêmes à leurs concitoyens de la réussite de ce système agroforestier qui consiste à implanter l'acacia au milieu des cultures agricoles et qui donne donc une production supplémentaire.
Oui, j'imagine que c'est quand même un grand projet et ça nécessite quand même une expertise de la part de ceux-là qui sont impliqués dans ce projet. Est-ce que vous avez eu à penser au renforcement des capacités, surtout du côté des fermiers, de tous ces gens-là qui travaillent dans les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, constituent quand même une main-d'œuvre importante dans le projet?
Bien sûr, il faut un appui aux populations et il est très important pour mener de tels projets d'avoir des partenaires fiables. Nous avons notamment au plateau Batéké le centre Kadim qui a permis de former toutes ces populations, ces groupes cibles. Et aujourd'hui, on peut se féliciter que chaque fermier de Mampou est conscient des méthodes d'exploitation moderne et de diversification afin que les familles puissent vivre en tout confort et toute sécurité à Mampou, avec aussi l'appui de programmes comme les programmes de scolarisation.
Alors, quelle est la contribution ou peut-être vos relations avec le pouvoir public, donc notamment le ministère de tutelle qui gère nos forêts? Je parle du ministère de l'Environnement. Quelles sont vos relations? Les relations sont-elles au beau fixe? Ou bien, peut-être en d'autres termes, j'aimerais bien insister sur la contribution du pouvoir public par rapport à ce projet.
Nous avons un partenariat très très étroit avec le ministère de l'Environnement qui nous soutient à 100%. Et il faut le rappeler, c'est quand même l'initiative du ministère de l'Environnement.
Oui, parce qu'on sait bien que les ONG, vous venez à l'appui souvent pour des différents projets que le gouvernement propose. Mais en termes clairs, parce que vous dites à 100%, c'est-à-dire le gros du financement, le pouvoir public a participé aussi au financement?
Bon, la plantation de Mampou appartient de toute façon au ministère de l'Environnement. Mais nous avons la chance, avec le ministère de l'Environnement, d'avoir exactement la même vision, la même optique sur cette possibilité de développer une protection de l'environnement au profit des populations. Et c'est pour ça qu'avec la Fondation Insidel, qui s'occupe surtout d'une démocratisation de la population et d'une conscientisation pour arriver à une vie, même à l'intérieur du pays, avec des communautés responsables, le ministère de l'Environnement nous appuie dans ce domaine, puisque nous travaillons également pour la protection de l'environnement, mais également au bien du développement social des populations.
Oui, nous revenons à vous, Monsieur Franck Bizio. Le temps pour nous d'accorder également la parole à Frédéric Djengo Bossoulou, directeur chef des services chargé de la gestion forestière au ministère de l'Environnement. Il faudrait quand même le reconnaître aujourd'hui, notre pays qui a quand même des ressources naturelles, nous avons des problèmes sérieux au niveau de la gestion forestière.
Oui, exactement. C'est ainsi que aujourd'hui, le ministère de l'Environnement est très satisfait par le fait qu'il a pris cette initiative qui était partie d'une problématique qui s'est posée autour des grands centres urbains, et surtout considérant que bien que le pays soit forestier, mais la forêt est inégalement répartie et qu'il fallait protéger des lambeaux forestiers qui étaient tout autour de Kinshasa. Et c'est ainsi que vers les années 80, comme l'a dit M. Franck, cette initiative a été prise et pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait introduire des essences à croissance rapide. Et nous n'avions pas commencé par l'acacia. Je crois qu'on avait d'abord commencé au centre forestier de Kinzono qui a servi en quelque sorte de base de données ou de pépinière pour la ferme des Mampou. Nous avions commencé avec l'eucalyptus, on a essayé aussi les milicières et d'autres essences. Ce n'est qu'après, vers les années, ça c'était
90.
Vers, ça c'était 78-79, et seulement vers les années 80-81 qu'on a essayé d'introduire l'acacia, et qui avait une sylviculture facile et aussi qui avait des facultés à améliorer le sol. Et là, ça nous a aidé en quelque sorte avec l'Union européenne, et là nous avions commencé timidement avec la coopération belge qui nous a aidé jusqu'à un certain temps. Et comme l'a dit M. Franck, vers les années 84, il y a l'Union européenne qui est venue et qui nous a appuyé pour la plantation.
90 avec l'instabilité, les projets étaient...
Le projet était presque, n'était pas allé au bout. C'était un cas de force majeure, l'Union européenne, avec le projet HVA,
Le projet allemand.
Allemand. Et qui est parti presque en catastrophe. Et là, heureusement que la Fondation Ansaïdia, qui était vraiment solidement installée au niveau de Kandim en Bankana.
Notre plus grand souci, c'est que Ansaïdia ne restera pas éternellement avec vous dans le cadre de ce projet. Mais quels sont les mécanismes déjà mis en place au niveau du ministère des tutelles pour pérenniser cette exploitation?
Tout à fait. Je crois que M. Franck l'a bien dit, il y a une étroite collaboration actuellement entre le ministère et la Fondation Ansaïdia. Et je crois que, bien qu'il soit à Gungu, bien qu'il soit parti pour Gungu, il reste encore nous pendant un certain temps à Mampou.
Et là, parce que c'est la plus grande crainte. Nous avons déjà vu des grands projets. Nous ne craignons pas que pour un Seidel. Il y a des grands projets que nous avons vus avec le Médecins sans frontières. Dans bien des cas, ils partent toujours en cascade. Alors il faudrait déjà que vous mettez à l'avant-garde. Sinon, vous risquez d'être surpris que les financements, comme l'a dit M. Franck, si jamais les bailleurs de fonds pourraient se réveiller à un certain moment et sont à court d'argent, ils ne peuvent plus financer ces projets. Ou peut-être l'intérêt est déjà, le résultat est déjà obtenu. Je crois qu'il est temps que vous mettez déjà, vous pensez déjà au mécanisme. Je ne sais pas.
Tout à fait. Je crois qu'au niveau, peut-être qu'un coup de pouce financier pourra aider les ministères. Au niveau technique, nous disposons quand même des techniciens au niveau des centres forestiers de Kinzono. Et comme l'a bien signalé M. Franck, je crois qu'au niveau des fermiers, il y a des renforcements des capacités qui se font de temps en temps. Et je demande ainsi, à cette occasion, je voudrais quand même qu'une certaine volonté politique soit accordée quand même à des projets pareils, parce que c'est une belle expérience que le gouvernement doit étendre à travers toute la République, et surtout dans des zones où il y a des problèmes de forêt. Il y a des problèmes de forêt et c'est une bonne expérience, mais je crois que nous avons au niveau du ministère,
Vous avez l'expertise. Ouais. Et je crois que Ansaïdel peut s'inspirer ou solliciter l'expertise du ministère. Mais là, j'insiste parce que je sais que aujourd'hui, on peut se réveiller un matin, vous n'avez plus de financement. Les bailleurs de fonds peuvent dire, les résultats pour eux, c'est déjà obtenu, Franck.
Moi, je pense que pour revenir sur la durabilité du projet Mampou et l'avenir de Mampou, la balle est dans le camp des fermiers. Après 10 ans d'encadrement, de différentes techniques, d'encadrements sociaux, après avoir construit des écoles, un centre de santé aussi là qui dépend de la zone de santé de Maluku, je pense que c'est aux fermiers de se prendre en charge, et je sais qu'ils seront capables de le faire. Les fermiers ont été choisis en fonction de leurs capacités, et toutes ces formations, c'est à eux de les mettre aujourd'hui en application. Ils sont regroupés en associations. Il y a différentes associations de producteurs.
Quand il n'y a pas suivi, il y a toujours un relâchement.
Il faut responsabiliser le paysan. Le paysan congolais est capable de se prendre en charge.
Quand il
n'y
a pas de suivi, et je sais que le ministère existe pour ça. Le ministère existe pour ça. Il ne doit pas normalement tout laisser.
Ce qu'a fait le ministère de l'Environnement à Mampou, je pense qu'aujourd'hui, il doit le faire ailleurs, dans d'autres territoires où les gens en ont besoin. Mais à Mampou, aujourd'hui, vous voyez une forêt de 8000 hectares, c'est repérable par satellite. Je pense qu'aux fermiers de l'exploiter, et de l'exploiter de façon raisonnée, en assurant la régénérescence des arbres, ils ont appris, on leur a montré, et je sais qu'aujourd'hui, ils sont capables. Et s'il y a un des fermiers qui veut aller trop loin dans son exploitation, trop rapide, qui veut jouer les opportunistes, c'est à ses collègues fermiers de le persuader de faire le contraire. Mais il faut aller travailler ailleurs. Le pays a besoin de projets, comme l'a fait le ministère de l'Environnement au plateau Bateke. On peut l'étendre aussi plus largement au plateau Bateke pour servir Kinshasa. Mais il y a de grandes savanes, il y a des populations qui ont besoin de ça dans d'autres territoires du Congo.
Oui, Monsieur Franck, le pays a besoin de tous ces projets. Est-ce que ça sera toujours, après Mampou, ça sera toujours avec la Fondation Ansaïdel?
Non, le but de la Fondation Ansaïdel est de laisser progressivement les fermiers de Mampou comme gens responsables. C'est une démocratisation à la base, un groupement de fermiers, de 300 fermiers qui représentent 8000 hectares, qui représentent presque 10% de la production en Makala de Kinshasa et au moins 5% de Fufu. Je pense qu'ils ont un certain pouvoir, ils doivent en avoir conscience et ils doivent s'organiser, se réunir en association. Il existe aujourd'hui à Mampou une association des fermiers qui s'appelle UFAM et qui connaît des élections en son sein pour renouveler son bureau tous les 2 ans. Ça fonctionne, je suis optimiste.
Oui, vous êtes optimiste, mais là je m'adresse directement à Frédéric Diego. Si aujourd'hui ça marchait à Ngungu et à Mampou, qu'est-ce qui vous fait savoir, puisque M. Franck vient de dire que le pays a besoin de ce projet un peu partout. Partout, on retrouve des forêts. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que ça peut marcher ailleurs? Là-bas, ils ont compris, la population a peut-être compris, les paysans ont compris. Est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser, de faire comprendre à la population l'importance de toutes ces essences qui sont plantées?
Ok, moi je crois que c'est un devoir, il faut que la population se prenne en charge. Et je vous dis ça en tant que fermier, parce que moi je suis fermier à Mampou. Et c'est une belle expérience, et c'est une belle expérience dont le ministère doit se servir. Et déjà, aux environs de Mampou, si nous prenons le cas du centre forestier de Kinzono, le ministère s'attelle maintenant à intéresser les cadres qui veulent faire de l'agroforesterie, en leur donnant des espaces. Il y a des tracteurs, les gens peuvent labourer, peuvent verser, ils plantent des acacias dans les couloirs, ils mettent leurs manioc. C'est une activité très, très intéressante. D'ailleurs, quand j'étais encore au service national des reboisements, j'étais débordé par des demandes. Mm-hmm. C'est ce qui trouve que la population y trouve déjà de l'intérêt. Et comme l'a dit M. Franck, vous voyez, c'était aujourd'hui, hier on parlait de Mampou, maintenant on parle de Gungu. Peut-être qu'après, ce sera Mbujmaï, ça sera Kananga, et nous voyons tous ces grands centres qui ont des problèmes, surtout d'énergie bois, des problèmes
de déforestation,
les problèmes alimentaires, les problèmes des manioc et tout ça là. Voilà la population de se prendre en charge, et cette expérience-là, le ministère veut l'étendre à travers la République.
Oui, monsieur Frédéric, disons, il y a une question de curiosité qui me passe à la tête. Aujourd'hui, au niveau du ministère, parce que vous avez peut-être la cartographie de la foresterie du Congo, vous avez peut-être, par rapport à la problématique de cette foresterie, déjà eu à relever certains besoins réellement exprimés. Alors, par rapport à votre fiche technique, combien ça peut vous coûter si jamais ce genre de projet a été multiplié? Quelle enveloppe avez-vous besoin pour réellement arriver à résoudre tant soit peu les derniers défis que nous avons à relever dans ce secteur?
Ok, globalement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour essayer de planter un hectare d'acacia, ça peut nous coûter plus ou moins 2 000 $. Donc nous partons d'une base qu'un hectare peut nous coûter peut-être plus ou moins 2 000 $ si nous utilisons des moyens tels que...
À travers le pays, globalement,
Globalement, si nous considérons aujourd'hui que...
L'espace que nous avons, donc combien d'hectares
si
il faudrait...
Si nous considérons aujourd'hui qu'on peut faire, par exemple, à travers le pays, on peut faire peut-être 500 000 hectares de plantations... Vous prenez 500 000 hectares, vous ne mettez pas 2 000 $, c'est que
après, c'est bien, ça fait déjà. Après, c'est le chiffre de M. Django qui est très généreux. Calculer, là. Oui, bon, le chiffre est évalué à la hausse, mais il encadre la formation et l'implantation des populations paysannes avec construction des bâtiments, écoles et même domiciles pour les exploitants.
Oui, parce que si j'ai fait le calcul, là, je suis déjà à plus de ça fait 10, donc 1 milliard presque.
Tout à fait. Mais là, je crois que ça doit se faire progressivement.
Tout à fait.
On peut peut-être croire que c'est beaucoup d'argent.
Tout à la
on peut peut-être croire que c'est beaucoup d'argent, mais par rapport aux bénéfices qu'on va tirer sur le niveau.
En fait, si vous pouvez peut-être rappeler ces bénéfices qu'on peut tirer, la République dira quel bénéfice.
Tout à fait. Mais c'est franc, venez de le dire. Nous faisons partie des pays du bassin du Congo, du bassin du Nil, tout ça là, et que quand nous allons reboiser toutes ces zones de savane, tous les lambeaux forestiers, toutes les galeries forestières seront protégées, parce que la population, si vous ne savez pas, on parle par exemple des exploitations forestières qui détruit la forêt. Non. Nos forêts sont détruites plus par les bois de feu.
Nous avons besoin de ces gens pour les chars de projet, par exemple, au niveau du boulevard du 30 juin.
Vous savez, la guerre. Ok, même pour les bois du 30 juin, nous avons. Donc, il y a des essences qui sont choisies pour tel ou tel objectif. Je crois que pour le vin, il y a quand même des plantes ornementales.
Vous y pensez déjà?
Oui, nous y pensons parce que on est en train de refaire
de moderniser le
boulevard. Et là, il faut que le ministère de l'Environnement soit impliqué
Donc jusque-là, vous n'êtes pas, impliqué. Ou peut-être vous serez impliqué après les travaux.
Ah oui, non, c'est par étapes.
Non, mais c'est par étapes, mais il faudrait faire. C'est le moment de replanter,
de faire sa
des études et puis de commencer déjà.
Avec, au même moment.
Au même moment.
Tout à fait. Parce que vous viendrez peut-être, vous n'aurez pas à émettre sur le même longueur d'onde que les ingénieurs qui ont travaillé la chaussée.
Nous sommes déjà dans les programmes parce que nous sommes représentés au niveau de la province par la coordination urbaine de l'environnement qui travaille déjà avec les gouvernorats. Hein, donc à travers les pays, il y a quand même des coordinations.
Oui, il y a une question aussi.
Nous sommes dans un problème typiquement quinois. Nous sommes en train de parler des ornements du boulevard qui est en train de se refaire, alors que des populations se font guetter par la famine à l'intérieur du pays. Revenons aux réalités, s'il vous plaît. Et le vrai problème, je pense qu'il est surtout d'abord de sécurité alimentaire. Mmh. Et si on veut appuyer une agriculture durable, il faut intégrer l'agroforesterie. Le problème est là.
Oui, mais alors, vous avez parlé de partenaires, parce que vous avez même lâché quelque chose en disant que, en demandant aux bailleurs de pouvoir peut-être vous appuyer encore davantage. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur vos partenaires, mis à part la Commission européenne?
Bon, nous avons des partenaires locaux, hein, c'est-à-dire que quand nous implantons un projet, j'ai cité Kadim au plateau Bateke, il y a aussi des associations d'agriculteurs ou de paysans comme ERDI à Gongou, et ce sont des partenaires privilégiés, puisque c'est eux qui sont chargés de mettre en place les programmes. Il n'est plus question aujourd'hui de parler de programmes où on fait venir une société comme à l'époque HVA, avec ses ouvriers, ses tracteurs. Je pense que ça, c'était de l'époque des années 80. Mais aujourd'hui, il est question d'impliquer les populations pour qu'elles-mêmes mettent en œuvre des solutions durables. Un paysan qui a planté lui-même 10 hectares d'acacias, le jour où il va commencer à exploiter ses acacias, il va réfléchir deux fois avant de couper les arbres trop rapidement parce qu'il connaît la peine qui s'est donnée. Il s'approprie lui-même son développement. Mampou, c'était une chance, mais je pense qu'il faut aujourd'hui impliquer les populations, les encourager à rester en province pour créer un développement durable et devenir leader sur le marché du vivrier pour les grands centres urbains.
Oui, Franck Bigiot, on voit plusieurs, ça c'est une question de curiosité, on voit plusieurs ONG internationales œuvrer dans notre pays, dans plusieurs secteurs. Vous avez choisi la sécurité alimentaire, mais qu'est-ce que vous gagnez en faisant tout ça? Vous êtes un peu l'armée du salut?
Non, pas du tout. La Fondation Insidel n'est pas l'armée du salut. La Fondation Insidel est là pour appuyer les populations dans les pays émergents afin de renforcer la démocratie dans ces pays. Et nous pensons qu'il faut travailler avec la base et c'est comme ça qu'on peut avoir une démocratisation solide du pays.
Oui, mais qu'est-ce que vous gagnez? C'est bien de travailler, c'est bien d'appuyer les populations.
Parce que j'imagine c'est un grand projet, il y a beaucoup d'argent. Disons, les bailleurs de fonds, en tout cas, vous ont considérablement financé et tout cet argent, c'est l'argent jeté en l'air.
Mampou, c'est 12 millions d'euros. Hein, 8 000 hectares, 12 millions d'euros sur plus de 15 ans. Bon, quand on sait qu'un hectare exploité, c'est plus de 8 000 $ de chiffre d'affaires. Hein, donc c'est quand même encourageant. Ça veut dire que chaque année, Mampou a plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas une petite société. Donc ça rapporte au pays, ça fait travailler des transporteurs, ça fait travailler des gens qui viennent
de
jobber, ça crée de l'emploi, ça fait travailler des gens de la transformation, ça fait travailler des commerçants. Donc c'est un appui économique du pays.
Oui, puisque vous connaissez le secteur, vous travaillez dans le domaine depuis un certain temps. Après Mampou, même si ce n'est pas avec votre fondation, vous pensez que le ministère de l'Environnement devrait se pencher dans quel coin?
Moi je pense qu'il faut continuer à travailler en savane. Paradoxalement, pour protéger les forêts, il faut commencer à travailler en savane. Et le Congo a la chance d'être divisé en deux, une partie forestière et une partie de savane. Donc il faut mettre en valeur ces savanes en produisant du charbon de bois, en faisant des vivriers, et les populations ne vont plus aller exploiter les forêts. Il faut savoir que la déforestation est due en premier lieu à la recherche de terres agricoles, non pas à l'exploitation de grumes, ni à la recherche de bois de feu, en partie, certes, mais surtout à la recherche de terres agricoles. Donc, si on met en valeur les terres de savane pour redevenir comme des terres agricoles grâce à l'acacia, on peut fixer ces populations sur les zones de savane où elles habitent aujourd'hui.
Oui, mais le jour où on n'aura pas suffisamment d'acacia, tous ces agriculteurs.
Les savanes sont immenses dans ce pays, les savanes sont immenses, il faut les mettre en valeur.
Non, on en aura assez pour tout le pays?
Largement,
pour toutes les
même
zones,
pour exporter. Le Congo est un avenir d'exportateur agricole à condition de mettre une politique agricole en œuvre aujourd'hui respectueuse de l'environnement. C'est pour ça que l'implication du ministère de l'Environnement est primordiale.
Oui, mais à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que le ministère de l'Environnement.
C'est le cadet de leurs soucis parce qu'ils n'ont pas de moyens pour mettre quand même les techniciens à réfléchir ensemble, déjà à avoir un cahier des charges.
Nous sommes à quoi ? Le ministère, la Fondation Insider et la Commission européenne, aujourd'hui, nous avons commencé à œuvrer dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Il y a une priorité, c'est-à-dire il faut élaborer un cahier des charges et évaluer réellement le besoin exprimé et aussi les chiffrer. C'est l'idéal. Non,
je crois que ce que nous devons savoir ici, c'est que tous ces programmes sont venus après le programme qui a été élaboré par le ministère de l'Environnement. Et je voudrais vous dire que le ministère de l'Environnement, déjà vers les années 80, disposait de...